bord.
Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaite un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité.
Bon voyage tout le monde, les amis. Ici Roger Mounsouci en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Jeudi, qui dit jeudi, The African Music, c'est votre gars Roger Mounsouci. Nous allons décoller, quitter Washington d'ici la grande capitale, direction Africa comme d'hab. Et Jean-Louis sera avec moi dans ce studio, des invités, la comédie encore une fois aujourd'hui. Pourquoi pas avec Lionel et Jean-Louis Mafema. On sera ensemble, un candidat à la présidence au Cameroun sera avec nous. Ah oui, 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 il sera avec nous en direct. Et à vos questions seront comme d'habitude les bienvenus comme d'hab. N'hésitez surtout pas au 001 703 350 37 31. Ça me ferait tellement plaisir. On quitte Washington aujourd'hui, j'ai dit African Music avec un morceau très cool que j'adore, que Jean-Louis adore d'ailleurs, c'est Black M et aussi Sidiki Diabaté.
Mais quand c'est pour sa famille, elle fait que ça appliquer. Nous on a grandi et elle fait comme si on venait tous de naître et c'est comme ça. Y a-t-il un mot plus fort que merci?
Merci.
Je crois que c'est à mon tour de la bercer. Y a que pour elle que mon cœur ne s'est pas endurci. L'histoire, si je pouvais, je l'aurais inversé. Je suis personne, elle a fait de moi quelqu'un. Si mon heure sonne, je serai de nouveau personne. Néné, repose-toi. Je vais gérer, pose tout, pose-toi. Golen Osati, elle est qui a là. Si on a uni, Golen Tung et Allah. Allo Moussi, Néné no Pouti. Wale, Djanja, je te fais une pouti. Aduna Kotambere, obligé de t'embêter. Débrouiller, surtout quand tu vis pas loin de Yembere. Que Dieu te garde le plus longtemps possible. Je vais tout faire pour que tu sois fier de ton fils. Comme il paye con, ça c'est du passé. Aujourd'hui je paye tout fier. Yodet, Akemi Wallan. Je me souviens, tu m'avais dit qu'un jour ça sera moi le daron. Je ne fais que m'inspirer de ta vie.
De ta vie.
Prends ma femme, fais-en ta fille. Alguien en aucun point démon. Parfois je cherche ailleurs, mais c'est le démon. Mon combat, que Waki la gole. Mon combat, que Waki la gole. Nene wo, que Waki la gole. Ko ayette, dialogue, mon fils, faut pas que tu t'affoles. Néné,
un sourire,
un souvenir,
un soupir,
que soutenir, jusqu'au bout,
sur tes rois.
Allez, je te dois beaucoup.
Mama yo, ne pas s'égarer.
Kala, elle est l'amie.
Mama, c'est là.
Daniel,
maman.
Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique, c'est en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. On vous dit merci infiniment. Ici, c'est votre gars Roger Moutou et Jean-Louis Mafema avec nous dans ce studio, bien sûr. Bonsoir Jean-Louis Mafema.
Et bonsoir Roger, ça va ?
Ça va très bien. Ouais. Surtout qu'on va continuer avec notre sujet de cette semaine. On parlait de l'éducation sexuelle à l'école primaire ou dès l'âge de 4 ans pour certains. C'est un grand problème, c'est un débat dans plusieurs pays. Ça avait commencé en France.
Ouais.
Et maintenant, c'est la question de cette semaine. Beaucoup d'entre vous seront en train de nous répondre sur les réseaux sociaux et bien sûr sur notre page Facebook VO Afrique. Vous allez nous voir en live, en direct. Et on vous prie de partager cette vidéo et surtout de aussi prendre le temps pour nous dire ce que vous pensez de ce sujet-là. Vous avez, comme d'habitude, m'écrire aussi sur WhatsApp ou Viber. C'est au 001 703 350 3731. Je répète encore une fois, c'est au plus 1 703 350 3731. Un grand plaisir de vous savoir nombreux à Niamey, à Djibouti, à N'Djamena au Tchad, à Kinshasa, à Libreville et bien sûr à Yaoundé et à Bamako. Vous êtes nombreux à nous capter en ce moment. Merci à vous. Écoutez, dédicace sur dédicace, c'est aussi chaque jeudi et c'est au 001 703 350 3731. Jean-Louis Mafema, ce sujet-là, je ne sais pas si tu as vu d'autres commentaires depuis hier.
Oui, mais ça fait polémique. Hein. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et donc je crois que c'est quelque chose qui va changer beaucoup de vie, beaucoup de manières de penser aussi. Ouais, donc vraiment ça fait polémique.
Et vraiment ça fait polémique, et tellement que ça fait polémique, pour nous, quel plaisir, quel honneur de recevoir aujourd'hui dans ce studio Monsieur Cabral Libi. On l'appelle le Benjamin de la présidentielle. Ici au Cameroun, à 38 ans, Monsieur Cabral Libi est le plus jeune candidat à la présidentielle camerounaise du 7 octobre, un juriste de formation. Il est surtout au centre d'un phénomène médiatique, il nous en parlera d'ailleurs lui-même. Et voilà aussi, donc c'est lui vraiment le buzz du moment, Jean-Louis, parce que je veux te dire quoi, quand j'ai posté sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui mon invité ou notre invité serait Monsieur Cabral Libi, des commentaires ont commencé à tomber là-dessus, mais c'est pas possible. Moi je me suis dit, mais Monsieur Cabral Libi, c'est un politicien ou un artiste musicien?
On lui posera la question.
On applaudit d'abord pour notre invité de ce soir, Monsieur Cabral Libi. Un grand plaisir, un honneur de vous recevoir dans cette émission pour la première fois, et cette émission qui est suivi partout dans le monde. D'abord, vos sentiments ici, c'est la première fois ici sur VO Afrique, hein, dans nos locaux de VO Afrique.
C'est la première fois dans ce studio.
Dans ce studio déjà, ouais.
La première fois dans le studio de VO Afrique.
Oui, oui.
C'est le lieu de saluer tous ceux qui sont en train de nous écouter et même de nous regarder.
Exactement.
J'étais subjugué tout à l'heure par l'ergonomie de ce studio.
Oui.
Je vous demandais si on est radio dans télé ou télé dans radio, parce qu'il y a en même temps les caméras partout.
Ouais.
Oui, mais ça me change un peu en fait. Avant d'entrer en politique, bien que je sois juriste de formation, j'ai fait également des études de communication.
De communication.
Master en sciences de formation de communication. J'ai travaillé à la radio.
Ah.
J'ai été chef de chaîne d'ailleurs de la radio universitaire.
Ah, ben super,
mais
voilà.
C'est bien.
L'université qui m'emploie. L'université qui m'emploie, donc ça me rappelle bien des choses. De retrouver la radio, le casque, le micro et tout.
Oui, ouais.
Et puis en non-politique, on est tout le temps dans des émissions sérieuses, de tonalités
très sérieuses.
Là, je reviens du studio. De la télé,
de la télé
où j'ai été reçu en invité
avec notre collègue John
Lindon.
Oui.
C'est différent, et puis ça me fait, c'est bien quoi, pour un homme politique d'être dans un environnement un peu plus relâché, même si le sérieux demeure
et qu'on
doit dire les choses dans le fond.
Exactement.
Mais quand vous avez dit, vous avez posé la question, est-ce que je suis artiste, c'est un côté de moi aussi.
Ah ben voilà.
Beaucoup de gens ne savent pas, parce que je suis choriste. J'ai fait l'école de chant et même l'école de musique pendant un an et demi.
D'accord.
Et je suis dans
le
choral Divine Fullness Singers.
D'accord.
Et puis, si la voix n'est plus nette.
Non.
La voix, il faut l'exercer. Mais on a même une maquette, effectivement.
Ah bon?
Avec ma chorale, bien sûr.
Est-ce que
je la fais diffuser même? Je la fais diffuser. Ben oui, je vous l'enverrai.
D'accord.
Je la fais diffuser des fois, d'ailleurs, dans les médias au Cameroun. Et puis, les gens ne croient pas. Quand je leur dis, ben c'est moi qui suis en train de chanter, ils ne croient pas.
Mais c'est ce qui fait de vous aussi, M. Cabral Libi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand vous faites passer un son pareil ou
vous rapprochez encore plus du peuple, hein, c'est ça.
Oui, moi, je
ils voient de vous comme n'importe quel choriste aussi, c'est normal.
Oui, bien mais c'est ça.
Politicien en même temps.
En Afrique, c'est peut-être le cas aussi un peu ailleurs, mais on a longtemps mystifié certaines fonctions. Les fonctions électives, la fonction présidentielle. D'abord, vous avez parlé de phénomène. Mm. Ça détonne. Un candidat de 38 ans. Enfin, on oublie même qu'au Cameroun, le tout premier président avait 36 ans, en 1960. Mm. Enfin, mm. On peut passer pour quelqu'un de très jeune, alors qu'il y a 58 ans, on a eu quelqu'un qui était de 12 ans. Oui. Oui. En RDC Congo, par exemple, on oublie que le président Kabila, qui est là, oui. Nonobstant, oui. Il y a autour de polémique, il est arrivé au pouvoir à 31 ans.
Mm. Oui.
Ça, on ne le dit pas souvent. Donc, mais bon, les Sankara et autres, ils sont arrivés dans la trentaine. Mm. Tous les révolutionnaires indépendantistes africains sont arrivés dans leur jeunesse.
Mais pourquoi on parle de cette jeunesse aujourd'hui? Pourquoi on parle de Kabri Libi comme voilà le...
Non, mais ça se comprend. En Afrique, qu'est-ce il y a eu une césure à un moment. C'est qu'il y a eu des jeunes. Vous savez, si on revient aux héros nationaux, pour le cas spécifique du Cameroun, Yobé, Ousseyné Afana, des noms que vous pouvez connaître, un peu Moumier. J'ai fait une enquête là-dessus, j'ai communiqué ça aux jeunes en février 2018, parce qu'il y a la fête de la jeunesse au Cameroun. J'ai fait un discours, je leur disais, mais tous ces héros nationaux, ce que vous oubliez, c'est qu'ils sont tous morts avant l'âge de 40 ans, et qu'ils en étaient à 10, voire 20 ans d'expérience de combat. Mm. Donc ils ont commencé à la fleur de l'âge, à 20 ans. Et la plupart des héros africains, la plupart des révolutionnaires africains, ils ont commencé très jeunes. Mais la césure dont je parlais tout à l'heure vient de ce qu'à un moment, le jeu politique est entré en captivité. En captivité par une génération qui est restée très longtemps. Ils sont au pouvoir pour certains depuis 30 ans, 40 ans. L'actuel président du Cameroun, il est là au pouvoir depuis 82. Ça fait 36 ans. Mais en 1968, alors que ma maman à moi avait 8 ans, Lui, il avait 35 ans, puisqu'il est né en 1933. Mmh. Et il occupait déjà les fonctions, je dis bien en 68, ma mère à moi avait 8 ans. Il était secrétaire général à la présidence de la République, cumulativement à la fonction de directeur de cabinet civil. Vous voyez, depuis ce temps-là, il est là, avec une génération. Du coup, les jeunes, eux, ne se sentent plus concernés. Mmh. Il y a une déconnexion totale, il n'y a plus d'identification. Mmh. Et puis, la politique est devenue l'affaire d'une génération, l'affaire des vieux, l'affaire des anciens. Au point même que lorsque vous vous levez, que vous êtes jeune et que vous vous lancez dans le combat politique, ben, c'est les jeunes, ils sont les premiers à vous dire, mais écoute Cabral, d'abord on a fait passer la politique pour une activité très dangereuse. Pas à tort, parce que beaucoup y ont laissé leur vie.
C'est ça.
En fait, on a fait de la politique une activité dangereuse, mortifère. Et les jeunes la redoutent. On les redirige vers autre chose. D'ailleurs, au Cameroun, pendant longtemps, c'était une phrase du président actuel. Il disait la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Vous dites, mais c'est quoi cette affaire? Donc, moi, je me suis engagé aussi pour sortir la politique de captivité. Ça fait 14 ans, en fait, que je me bats.
14
peut-être
ans.
Qu'aujourd'hui, oui, j'ai commencé à 24 ans.
Ah, voilà.
Je sors donc, de l'anonymat dans mon pays.
Que vous êtes jeune,
en 2004, ouais. C'était une année électorale. Je n'avais pas encore l'âge d'être président. J'avais 24 ans. Chez nous, on a l'âge à 35 ans. Mais j'étais déjà porte-parole d'un mouvement estudiantin contre la réélection du président actuel. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Mais en fait, ceux qui me mettaient en garde n'avaient pas toujours tort. J'ai laissé quand même 6 ou 7 ans d'années d'études. Parce que une fois qu'un jeune essaie de lever la tête, eh bien, il y a une sorte de complot générationnel contre lui. Il faut absolument décourager ceux qui auraient envie de l'imiter. Du coup,
ça, si.
Il y a un terme consacré chez nous, tu es fiché. Tu es fiché, les concours, tu ne vas jamais réussir, d'emploi, tu n'en trouveras pas, tu vas de difficulté en difficulté. Et qu'est-ce qui reste? C'est l'exil, l'expatriation. Ben, moi, j'essaye de lever tout ça, de renverser tout ça, d'inverser tout ça et de dire aux jeunes Africains, là, je ne parle pas seulement aux jeunes Camerounais, je leur dis, écoutez, il vaut mieux commencer tôt. Et d'ailleurs, quand on est plus jeune, quand on commence jeune, on a même le droit de commettre des erreurs, c'est tout à fait normal. Mais il faut commencer tôt, l'expérience. Vous savez, aujourd'hui, on dit, mais il n'a pas d'expérience. Mais c'est quoi l'expérience?
Et on parle,
est-ce qu'il y a une école où on apprend à être président?
On sent vraiment qu'on est en face d'un juriste. Jean-Louis, tu voulais dire quelque chose avant qu'on passe en anglais,
oui,
on
continue avec le programme. Qu'est-ce qui a changé? Qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes sûr, vous dites que vous êtes prêt à assumer ces fonctions-là? Qu'est-ce qui a changé depuis? Parce que ça fait depuis, je dirais, 15 ans qu'on suit quand même au Cameroun et on voit que le président actuel avait pratiquement scellé tout.
D'accord. Donc, et ça, c'est une question, ça, c'est une question que M. Cabral va développer, mais on revient d'abord parce qu'on dit que le programme doit continuer.
C'est noté.
Ouais, ça, c'est noté parce que s'il commence maintenant, on va continuer encore 10 minutes. Il faut lui donner le temps pour bien expliquer cela. D'ailleurs, on passe à l'anglais. Si Lionel est déjà prêt en ce moment, on va passer à l'anglais avec Michel Joseph. On continue avec le programme. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington, la grande capitale de United States of America. Comme d'hab, comme d'habitude, hein, ce programme. Vous écoutez aussi les sons d'anglais de Michel Joseph. C'est tout de suite. Michel Joseph qui est prêt et j'espère aussi que nos amis de Ouagadougou, surtout à l'école protestante de Ouagadougou, ils sont tous prêts, ils ont leur stylo pour noter ce mot ou une expression en anglais que Michel nous apprend ce soir. Hello Michel.
Hello Roger, hello everyone, bonjour tout le monde. The word of the day, le mot du jour, stick, S-T-I-C-K, a stick, un bâton, une canne, un levier, to stick, c'est le verbe coller, insérer, plonger, mettre. There are many sticks in the woods, il y a beaucoup de branches mortes dans les bois. The man had a walking stick, l'homme marchait à l'aide d'une canne. They lived out in the sticks somewhere, ils vivaient en pleine campagne quelque part. Expression familière pour dire, vous êtes perdu. Let's stick to the plan. Tenons-nous-en à notre plan, notre projet. What a great idea. It sticks. Quelle idée géniale. Ça marche. I used glue to stick the poster to the wall. L'idée de la colle pour coller l'affiche au mur. Stick the pole into the ground. Plante bien le poteau dans le sol. Stick the umbrella into the corner. Mets le parapluie dans le coin. Back to you, Roger.
Merci beaucoup à Michel Joseph. Évidemment, l'anglais, c'est très important, on l'a dit. Et je suis sûr que nos amis, des étudiants à l'école de journalisme, l'IFASIC à Kinshasa, sont en train de nous capter. Ils vont dire aux gens, on va commencer à apprendre cette langue, cette belle langue chez vous là-bas. Ostita, merci à eux. On continue avec la musique, on va respirer. Et vos commentaires, vos questions, je vois déjà vos questions qui tombent pour notre invité de ce soir, le candidat aux élections présidentielles du Cameroun, M. Cabral Libi, est avec nous ce soir ici à Voice of America dans RM Show VOA Africa. On écoute Dadju, nous revenons dans un instant et vous préparez vos questions, vous nous écrivez sur WhatsApp ou Viber, c'est au 001 703 350 37 31.
Ici, vous écoutez RM Show sur VOA Africa.
On finit par faire ce qu'on dit dans la vie, demande à Serge Ibaka. Je ne sais plus ce que veut dire, je ne peux pas. Je suis entouré de la famille, chez nous tu vois pas de chagrin pour soi. Et beaucoup trop pour le trône, yeah. On est volé le papier, ma position. Capé de la tête au pied, ma position. Les ennemis sont des milliers, ma position. Et que je ne crois en vie, ma position. Dis-moi ce que tu veux. La vie m'a laissé des séquelles que je ne pourrai jamais oublier. Acheter tout ce qui me fait plaisir me permet de ne jamais oublier. On fait voler le papier. Dis-moi ce que tu veux.
Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. On vous dit merci et on vous prie de partager cette vidéo si vous êtes en train de nous suivre partout où vous êtes en ce moment, pour que tout le monde aussi puisse ne puisse pas rater notre émission de ce soir. C'est une émission spéciale parce qu'il y aura beaucoup de bonnes choses. Il y aura, encore une fois, je vous ai dit, il y aura la comédie, ce qui ne s'est fait pas toujours, avec Lionel et Jean-Louis Mafema, mais aussi notre sujet de la semaine qui continue à générer beaucoup d'engouement sur les réseaux sociaux. Et aussi, je vous ai dit au début de cette émission, notre invité, c'est le candidat à la présidentielle camerounaise du 7 octobre, Monsieur Cabral Libi, qui est avec nous. Ça a bien commencé parce qu'il nous a dit d'abord lui-même, oui, il est artiste. Hein. Ouais, il est artiste, il va chanter pour nous avant cette émission. Et je le disais tantôt, juriste de formation et bien sûr, rentrons un peu, Monsieur Cabral Libi, votre jeunesse. Hein. On sait que votre père était aussi un homme des lettres. Parlons un peu de la façon
dont... Je ne sais pas comment vous le savez, mais bon.
Mais... Heureusement que les journalistes font des recherches. Heureusement que ça existe. Ouais. Papa, homme des lettres, comment était le jeune Cabral Libi?
Le jeune Cabral Libi, oui. Comment je suis?
L'adolescent, je veux dire. Comment il était quand il grandissait? Qu'est-ce qu'il aimait faire? Si on veut vraiment connaître ce... on s'est dit, oui, aujourd'hui, il est le jeune candidat à la présidentielle. Mais comment il était quand il était jeune? Qu'est-ce qu'il aimait faire? Est-ce qu'il joue au foot? Est-ce que, voilà, on sait déjà qu'il était
Oui, ça c'est même récemment. Je travaillais beaucoup. Ouais. Je suis l'aîné d'une famille.
Ah, d'accord.
Et papa m'a toujours dit qu'il fallait que je bosse pour avoir ma place dans notre pays. Lui, il sentait déjà que les choses seraient plutôt difficiles. Donc, j'ai grandi en réalité un peu comme un agriculteur, comme un paysan. Bien que papa était fonctionnaire, donc dès que les classes s'achevaient, tout congé, on montait, on allait au village. Et puis, j'ai appris à faire des pièges. Je sais faire toutes sortes de pièges. Je sais pêcher de jour comme de nuit. Je sais attraper les crabes, le Bruno et Goliath. J'ai appris très tôt à tirer.
Ah bon?
Oui. Les fusils de chasse.
Les fusils de chasse, bien sûr.
Ouais.
Tirer, c'est tirer, en tout cas.
C'était avec des fusils. Des fusils moins lourds pour les oiseaux. Les carabines. J'ai pas fait usage de l'arme plus lourde avec les chevrotines pour tuer les singes et tout. Papa ne voulait pas. J'ai appris à travailler à la machette, à là où j'ai abattu mon premier arbre à la hache pour les champs. Je pense à 15-16 ans. Donc, j'ai eu une enfance très laborieuse en réalité, un thème de labeur, de travail des mains, comme on disait. Et puis, de l'autre côté, j'étais plutôt studieux. Quand j'étais plus jeune, j'étais relativement brillant à l'école. Et puis, j'aimais beaucoup la lecture. J'avais pas trop le choix non plus. Je suis pas né très athlétique. J'étais pas gros, un peu comme vous.
Moi, je suis gros comme moi.
L'allure. Vous n'êtes pas gros, vous êtes athlétique. Moi, je suis pas né athlétique. Du coup, très tôt, j'ai compris que pour des gens comme moi, c'est les jeux de l'esprit. Je me suis passionné très vite pour les jeux de l'esprit, le Scrabble, les échecs. Et puis, je lisais beaucoup. Comme papa était un enseignant de français et qu'il, entre guillemets, nous enfumait avec le beau français. Et donc, on était obligés, nous-mêmes, de nous mettre à jour pour pouvoir tenir. Et puis, on était obligés de bien faire des études parce que il était le seul intellectuel de la famille. À un moment, il était le dernier d'une fratrie de 7 et c'est le seul qui a fait des études universitaires. Il avait de cesse de nous rappeler qu'on n'était rien et tant qu'on ne l'avait pas dépassé. Donc, moi-même, mes frères et moi, on s'est tous donné pour objectif de le dépasser un jour et de le réduire au silence. Ce que nous avons d'ailleurs tous fait.
Chacun. Ça, c'est vrai. Chacun. Nous aussi, on était motivés par la même chose. Les parents ont monté tellement haut.
Et maintenant, le vieux. Mais du coup, parce que le temps, monsieur, mais je dois vite avancer avec ça. Mais monsieur Cabral, de là, c'est ce que je voulais vraiment savoir. Et vous avez vraiment bien nourri avec toute cette.
Mais j'ai été sportif, j'ai joué au volet.
Ah!
Au lycée, oui. J'ai joué les compétitions de volet au lycée.
Mais vous êtes grande taille, basket, non? Ça pas
un... Non, pas basket.
D'accord.
C'était au volet.
D'accord.
J'aimais beaucoup le volet, je l'aime d'ailleurs toujours.
Ouais. Alors, de là, avant que je passe aux nouvelles, pourquoi la politique?
D'abord, il y a longtemps, je vous l'ai dit, ça fait 14 ans, que j'ai toujours pensé que ceux qui dirigeaient notre pays avaient raté leur mission. un État doit protéger les citoyens, un État, ceux qui dirigent un État doivent trouver des solutions aux problèmes des citoyens. Quand ceux qui vous dirigent se foutent royalement de vous, se montrent indifférents à la misère, à la souffrance, au chômage, et que c'est une clique de personnes qui, au sommet de l'État, fait du pays ce qu'il veut et nous rendent nous autres mendiants de notre nationalité. Enfin, vous êtes Camerounais, mais vous êtes obligé de supplier d'autres Camerounais pour avoir vos chapitres. Et mais très tôt, moi j'ai décidé de me battre. C'est vrai, je suis aussi issu d'une famille de nationalistes, d'indépendantistes, de combattants. Mon père a laissé deux de ses grands frères et même son père à lui, notre grand-père, dans les combats du Maquis, dans les luttes d'indépendance. Donc je me suis senti à un certain âge le devoir de me situer dans le prolongement de ce combat-là et je me suis toujours battu. Et maintenant j'entre en politique, puisque c'est ça votre question.
Exactement.
Je suis plus connu dans mon pays comme un analyste politique, quelqu'un de très caustique et de très critique envers le régime. Et puis tout ça en réalité, c'est parce que je résiste pas devant les justices, je résiste pas devant l'inégalité. Et je me suis dit, tant que Dieu me donnait la possibilité de parler, de m'exprimer, de porter haut des combats, moi je suis connu dans mon pays pour quelqu'un qui porte des combats perdus d'avance presque. Et moi, parfois on me demande, mais pourquoi tu luttes, pourquoi tu te bats, tu gagnes rien là-dedans, bien au contraire, les problèmes s'accumulent dans ta vie. Et moi je dis, chacun a sa mission, je me bats, même si je ne triomphe pas, un jour d'autres triompheront. Et dès que j'ai eu l'âge d'être candidat à l'élection présidentielle, ça fait 3 ans que j'ai l'âge, j'ai dit, j'ai un projet de société, je me lance en politique, je suis à la tête d'un mouvement qu'on appelle 11 millions de citoyens, c'est une association. Un parti politique qui me suit depuis longtemps m'a dit, on t'accorde de l'investiture, on y va, et ça donne ce que ça donne.
On parlera de ça dans un instant, parce que Lionel me dit, les news, les nouvelles, si t'es prêt Lionel, moi je suis prêt, on y va. C'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel, dans RM Show. On commence, bien sûr, avec M. Kofi Annan. Dernier hommage à l'ancien secrétaire général. Ses funérailles nationales se sont déroulées aujourd'hui au Ghana, son pays natal. En RDC, les candidats de l'opposition pour la présidentielle du 23 décembre mettent en garde contre une parodie d'élection. 5 d'entre eux, parmi lesquels les candidats invalidés, ont fait une déclaration conjointe à Bruxelles, exigeant que les candidats récalés soient réadmis à partir de la présidentielle et que la CENI abandonne la machine à voter. Plusieurs centaines de travailleurs béninois sont descendus dans la rue pour dénoncer la limitation du droit de grève à 10 jours par an, votée la semaine dernière par le Parlement. Les manifestants considèrent cette nouvelle loi comme oppression de leurs droits. On finit bien sûr au Zimbabwe. L'épidémie de choléra s'est propagée de la capitale Harare à plusieurs régions du pays et a fait au moins 24 morts depuis la semaine dernière, selon un nouveau bilan officiel publié jeudi qui fait état d'une pénurie de médicaments. Voilà tout pour l'actualité. Nous allons prendre un petit break dans quelques secondes. Si vous êtes en train de nous capter, n'hésitez surtout pas à écrivez-nous au 001 703 350 37 31 pour participer à cette émission. On vous dit merci infiniment si vous êtes en train de nous capter en ce moment à Dakar, comme les étudiants à l'université, à l'école Sesti. Et nous revenons dans un instant. On va prendre un petit break. C'est maintenant la deuxième partie de RM Show. C'est tout de suite. Merci à vous si vous êtes restés à l'écoute de la première partie. La deuxième partie, comme j'aime le dire, c'est la partie la plus importante. Je vous dis comme d'hab, God bless. Peace Africa.
Programas de voz da América que bate mais. Vai dormir sem ouvir o RM? Não faça isso. Todos os dias, à noite, boa música. É no show do RM. Não perca.
RM Show est venu gagner au Giza et du monde musique Giza. Tout là, il compte la calme.
Les amis branchés sur la voix de l'Amérique d'un pays d'Haïti, pas raté. Bon, ça, chaque après-midi avec Roger Montou, RM Show, son avion qui est un bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté. Avec bonne musique et toute sa dame. Roger Montou, RM Show, sur la voix de l'Amérique. Bien. Avant, merci pour la cité à toi. En tout cas, RM Show, avec la musique, ça va. Avant, la tête à cité. Avant.
Oui, yo, j'ai semé la parade de RM Show, Bané.
RM Show.
This is our show, let's go les amis, ici Roger Muntou, c'est en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique, et notre sujet de la semaine, vous n'avez pas oublié j'espère, on parle de l'éducation sexuelle à l'école primaire, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, c'est mauvais, qu'en sais-je? Ça sera aussi la question qu'on va poser à notre invité de ce soir, monsieur Cabral Libby, qui est notre invité, hein, qui aussi, comme on l'appelle, même si je pense que lui il n'est pas tellement d'accord de ce nom, le plus jeune candidat à la présidentielle camerounaise du 7 octobre. Mais Jean, lui aussi, a beaucoup de questions. Vous aussi, on voit clairement que vous avez beaucoup de questions qui tombent déjà. On pourra prendre ces questions après cette chanson de Serge Beynaud. On salue les amis qui sont en train de le capter à Cocody et à Yopougon.
Vous écoutez RM Show sur VOA.
Isabelle Impoté nous capte en direct de Kinshasa. On lui fait un grand coucou comme Alphonse Mboaki qui est en train de nous capter. Et bien sûr, on n'oublie pas Nathalie Moussoubé qui nous capte aussi, bien sûr, en direct sur notre page officielle Facebook VOA Afrique. Bonsoir. Il nous écrit du Kivu. Lui s'appelle Claude Amouli. Merci beaucoup à Mado King. Mado King nous capte de Yaoundé. Coro Marico nous écrit de Bamako, sincèrement, mais dédicace à toi Roger et à toute ton équipe. Bravo à vous. Merci Coro Marico. Yves Wilonja nous capte à Kinshasa, à Cape Town. Et dit Roger, je vous capte 5 sur 5 à Cape Town. Vous êtes en train d'écouter Serge Beynaud qui vous fait bouger en ce moment en compagnie, bien sûr, de tout le monde. Les amis, on est ensemble ici dans RM Show. Un grand coucou à sa famille. Sa famille nous écrit de Djibouti. Enoch Madidi. Ah oui, il nous capture Facebook Live. Il est en Grèce, lui. Merci beaucoup, Enoch Madidi. Akrakabo, bien sûr, un grand coucou à Golo Ibrahim. Golo Ibrahim nous capte à Abidjan. Et bien sûr, si Bamako nous capte, Cathy aussi nous capte. Merci beaucoup à Nicolas Cissé qui nous capte, à Cathy. Merci Nicolas. Restez à l'écoute de cette émission RM Show. C'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Aujourd'hui, notre invité, monsieur Cabral Libby. Et beaucoup déjà des questions, mais Jean, lui, je sais que je t'ai arraché la parole au moins deux fois. Et je sais que monsieur Cabral Libby ne vous a pas encore répondu, mais je te laisse encore poser ta question.
Oui, non, moi, c'était. Par exemple. On sait que les chefs d'État, en Afrique, généralement, ils ne préparent pas des élections pour les perdre. mais partout pour les gagner. Alors, comment vous voyez vos chances? Est-ce que les moyens, ils y sont? Parce que je sais que vous allez sûrement avoir les gens derrière vous. Rien que par votre discours, je peux un peu voir votre vision.
Jean-Louis, c'est quoi votre question?
Oui, c'est vrai. Comment se prémunir face à la fraude?
Ah oui, exactement.
C'est de ça que vous voulez dire. Est-ce que votre diaspora vote aussi?
Je commence par là. La diaspora, c'est d'ailleurs l'une des raisons de ma présence.
Ici,
je viens d'une tournée européenne, j'engage une tournée américaine. La diaspora camerounaise vote à l'élection présidentielle, et ce depuis 2011. Donc, et puis, vous avez parlé des moyens. Moi, je préfère prendre déjà le côté moyens financiers. Vous savez, moi, je suis un peu atypique au Cameroun. Je suis le candidat du peuple. Pour payer ma caution, c'est 30 millions de francs CFA. Je me souviens, le 9 juillet, lorsqu'on convoque le corps électoral, on avait 8 jours pour déposer le dossier. J'avais 1 million sur les 30. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de demander à mes compatriotes de cotiser. Donc, j'ai lancé un fonds de raising, 1000 francs CFA. C'est l'équivalent de 2 dollars pour chaque citoyen. Et c'est comme ça qu'en 6 jours, j'ai pu lever 30 millions de francs CFA. Et là, pour battre campagne, j'ai lancé un autre fundraising de 200 millions de francs CFA. Et je fais le tour du monde, entre guillemets. Donc, je présente mon projet de société, intitulé « Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies ». C'est ça la vision que je porte. Et puis, les compatriotes, ils cotisent. Donc, je suis à peu près le seul candidat dont on sait exactement d'où viennent ces fonds. Maintenant, vous évoquez les questions de pesanteur dans le processus électoral. Vous savez, la particularité de l'Afrique, et c'est ce qui justifie donc que les jeunes ne s'y intéressent plus, parce que les gens y sont depuis une éternité, c'est que les chefs d'État taillent le processus électoral à leur mesure. Et c'est cela. Dans le contexte camerounais, le contexte camerounais ne déroge pas. Parce que le président actuel ne peut pas gagner l'élection. Ça, c'est un secret politique, tout le monde le sait. Mais il se montre confiant parce qu'il sait qu'il va gagner comme d'habitude. Nous sommes dans des zones enclavées. On fait exprès d'organiser les élections en saison pluvieuse, parce que c'est le 7 octobre et ça dure depuis 92. C'est fait exprès parce qu'on sait que pendant la saison pluvieuse, seuls certains véhicules n'appartenant qu'au poste du régime peuvent arriver à certains endroits. Les bureaux de vote restent fictifs dans bien des cas. Mais on a essayé d'anticiper tout ça. Nous luttons avec les armes modernes, les armes de notre époque. D'abord, on a mis en place une application, electra.org, www.electra.org, Electra Elections Transparency.
Mais c'est là où moi je ne comprends pas, monsieur Cabral, parce que... L'Afrique n'est pas encore là avec la technologie.
Non, mais attendez. Attendez, il y a au moins les zones urbaines. Mais il y a le réseau. Vous savez ce qui est bien dans un pays comme le Cameroun aujourd'hui, là où il y a le réseau, on a déjà Internet, même si le débit n'est pas bon. C'est encore 1 ou 2G en zone rurale. Et d'ailleurs, même en zone urbaine, on parle de 4G, on est loin du compte. Mais non, on est encore dans la méthode ancestrale de représentation dans le bureau de vote. La loi autorise chaque candidat à avoir un représentant dans un bureau de vote. Et cette même loi, qui a évolué un peu en 2012, dit que quand on a fini le décompte dans un bureau de vote, le président du bureau de vote établit un procès-verbal identique sur lequel tous les représentants des candidats signent, et chaque représentant de candidat sort de là avec son exemplaire du PV. Ça veut dire en termes simples que si nous avons 23 000 bureaux de vote, comme ce sera probablement le cas, parce qu'on nous dit à la dernière minute, en fait, quel nombre de bureaux de vote il y a et où ça se trouve, c'est très compliqué. Il faut donc, si vous réussissez en tant que candidat, et c'est le pari que moi je fais, mon mouvement prône le bénévolat, en fait. Je suis en train de recenser, en fait, de recruter 25 000 jeunes, qui seront principalement les jeunes, mais il y a aussi les adultes et tous les âges, qui seront donc dans les bureaux de vote et qui devront ressortir du bureau de vote le jour du vote au soir avec chacun son PV. Lorsque nous aurons eu tous ces PV et que nous pourrons donc les matcher quelque part, c'est pour ça que nous avons donc créé Electra, pour que les PV soient filmés et envoyés en Mondovision
automatiquement,
pour que tout le monde puisse voir ce qui est sorti de quel bureau de vote.
Et là, vous êtes convaincu tout
en un seul jour. Si on réussit ce pari, je le dis partout depuis des semaines, le plus difficile cette année au Cameroun, c'est pas de gagner pour un candidat de l'opposition. Nous sommes à peu près 2 ou 3. Moi, j'étais outsider il y a quelques mois. Aujourd'hui, je suis dans le trio de tête des favoris. Donc, l'un d'entre nous, les 3 du trio de tête, va certainement gagner les élections. Mais le plus difficile pour lui sera de prouver qu'il a gagné les élections. C'est d'ailleurs pour ça que j'engage les autres candidats de l'opposition. Je leur dis, je leur ai écrit, je leur dis, à défaut d'avoir un candidat unique de l'opposition, ayons au moins une liste unique des représentants. de nos représentants dans les bureaux de vote, de telle sorte qu'au soir du vote, au plus tard le lendemain, même si on a coupé Internet, on peut trouver le moyen de rassembler à un endroit les PV. On peut faire plusieurs points de rassemblement, de collecte, et puis nous-mêmes nous publions les résultats avec preuve à l'appui. C'est ce qu'aucun candidat n'a réussi à faire en fait au Cameroun.
Mais là, il n'y aura pas de doute.
À partir du moment où nous avons les PV authentiques, oui. Je rappelle que quand vous avez le PV, il porte la signature aussi du représentant du candidat du pouvoir. Donc, sa signature apporte la caution. Sur ce PV. C'est pas un PV que vous fabriquez.
Et le problème que vous avez en ce moment, je veux dire, entre les francophones et les anglophones, comment est-ce que vous voyez ça et comment...
C'est un problème grave. C'est de la guerre, en réalité. Ouais. Moi, je suis allé...
Il n'a pas commencé aujourd'hui.
Justement.
C'est un seul peuple.
C'est la conséquence du mépris et de la condescendance. Je vous disais tout à l'heure, lorsque dans un pays, ceux qui le dirigent se coupent de la base, ne redoute plus rien, se croit tout permis et invincible et éternel, ça donne ce résultat. Le Cameroun a une configuration un peu compliquée. En fait, nous sommes à la base une colonie allemande. L'Allemagne perd la Première Guerre mondiale et ceux qui ont gagné la guerre se partagent le butin qu'un autre pays, en fait. Donc la France prend une part, l'Angleterre prend l'autre part. C'est là, en quelque sorte, que la crise commence. Nous vivons de façon séparée comme ça jusqu'à l'indépendance, en 60. En 61, on rentre au fédéralisme. Donc les deux parties se mettent ensemble. On reste dans le fédéralisme pendant 11 ans. Et en 72, on crée un État unitaire. Sauf que la partie anglophone, elle est plus petite. C'est 2 régions sur 10. Et dès cet instant, les frustrations s'accumulent. Ils disent, écoutez, nous on est du système anglo-saxon. Le système éducatif que vous nous imposez pose problème. Le système judiciaire pose problème. Et puis, nous on est d'une culture différente. Nous, c'est vous savez, avec les anglo-saxons, c'est un peu le cas aux États-Unis ici, c'est pouvoir au peuple. C'est la culture anglo-saxonne. Avec le système francophone, c'était l'indigénat. C'est-à-dire, on dirige au bâton. Du coup, les anglophones, ils avaient du mal à se retrouver dans le nouveau système à partir de 72. Ils disaient, mais non, nous aussi, on doit décider. Mais si, pour refaire une route de 5 km en terre, il faut attendre qu'on décide à la présidence, mais non. Et ce sont ces frustrations qui se sont accumulées et qui ont donné le résultat. Du coup, maintenant, c'est la guerre. Moi, je suis allé à Batibo. J'ai failli laisser ma vie. Je me suis couché 2 heures sous un lit.
Qu'est-ce que vous pensez d'abord, avant de parler de la solution, de la réponse du gouvernement, la réponse de l'exécutif même de Paul Biya, quand M. Philemon Yang, je pense...
qui est anglophone, je précise.
Ouais, qui oppose déjà une fin de non... il y a le couvre-feu instauré dans les 2 régions anglophones, interdiction des réunions de plus de 4 personnes dans l'espace public, des déplacements aussi entre les localités et accès limité à l'Internet. Vous pensez que cela...
C'est la répression, c'est pas la solution. C'est la guerre maintenant. Ça tire de 2 côtés. L'armée perd des hommes, les combattants perdent des hommes. Je vous dis, c'est la guerre. C'est des zones, il y a certaines villes où il n'y a même pas un chat. Tout le monde est parti.
Et comment
il y a
que des militaires.
Mais je voulais déjà qu'on se comprenne. Oui. C'est-à-dire que c'est une crise endogène. Oui. Et c'est une situation grave. Moi, chaque fois que j'en parle, je m'arrête généralement pour saluer les mémoires des gens qui y restent. Oui. C'est une crise endogène, c'est-à-dire des Camerounais qui tuent d'autres Camerounais. C'est quand même grave, ça. À cause de 2 langues dont nous avons hérité de la colonisation.
Ça, c'est vrai.
Donc, et c'est ça qui est marrant. Et en plus, on n'est même pas capable de s'asseoir entre frères et sœurs d'une même famille, d'une même maison, d'un même pays pour discuter. La solution, elle est là. En réalité, la première solution au Cameroun aujourd'hui, c'est le changement de président. La deuxième, c'est au moins 40% de la solution. Deuxième chose, il faut décongestionner l'État. En fait, on est dans un système au Cameroun d'hypercentralisme. Tout se décide à la présidence. Même le premier ministre, nous on l'appelle affectueusement, comme je suis juriste, un primus inter pares, en fait un premier parmi ses pairs. Un premier ministre au Cameroun, il n'est absolument pas grand-chose. Il n'a aucun pouvoir, il est là à titre décoratif. Celui qui dirige, qui a tout le pouvoir, tous les pouvoirs entre ses mains, c'est le président de la République. Et c'est très frustrant. Et le Cameroun, pourtant, depuis 1996, en tout cas c'est écrit dans la Constitution, nous sommes entrés dans la décentralisation. Mais les conseils régionaux n'ont pas vu le jour jusqu'aujourd'hui. Et du coup, c'est l'étouffement. La société est corsetée, les gens se sentent asphyxiés. Il y a le président qui est très vieux et il est entouré de quelques autres vieux qui font en fait du pays ce qu'ils veulent. Et l'une des raisons donc de cette crise, c'est qu'à un moment, les anglo-saxons, qui sont de cultures différentes, ils sont plus contestataires, ils en ont ras-le-bol, et ils ont donc décidé de marcher, notamment leurs avocats, en novembre 2016, et c'est la répression des avocats qui marchaient pour contester les errements du système judiciaire, c'est leur bête.
c'est une bête répression en réalité, c'était bestial. Ils ont été tellement réprimés que ça a exacerbé la colère et puis ça a donné ce que ça a donné.
Et la solution, donc, tout ça
la solution, c'est la décongestion de l'État central et c'est ce que moi je compte faire, le régionalisme. On a 10 régions au Cameroun, il faut transférer des attributions aux régions sur des questions culturelles, économiques, sociales, santé, environnement, éducation. Permettons aux régions de s'auto-gérer. Mettons en place les conseils régionaux et refaisons de la mairie, la commune, la clé du développement. Il faut décentraliser. Ceux qui nous gouvernent actuellement pensent que lorsqu'ils ont décentralisé, ils perdent le pouvoir. Mais non, les États-Unis, c'est bien un État fédéral et puis les entités fédérées qui s'autogèrent sur un certain nombre de sujets. Les sujets fédéraux, c'est le cas ici, sont connus. Les sujets des États fédérés sont connus. Et autre chose, c'est la troisième solution que nous préconisons, c'est la sortie de captivité francophone-anglophone. Vous savez, le Cameroun, c'est près de 300 ethnies. Moi, je suis Bassa, par exemple, et j'ai des compatriotes qui sont Eton, Bamileke. Vous savez, si on ne parle pas français, on ne s'entend pas. Pourtant, on est dans le même pays. Parce qu'en fait, l'école ne se fait qu'en français et en anglais. Et pourquoi nos langues, elles, on ne peut pas nous scolariser avec nos langues, comme au Sénégal, comme au Ghana maintenant, où il y a l'enseignement en langue locale. Et moi, je dis, tant que nous continuerons à nous identifier par une langue étrangère, parce que la langue étrangère, elle est structurée.
Vous pensez qu'il y aurait toujours de
la langue. Non, maintenant, moi je suis Bassa, je dis que dans la commune Bassa, c'est un peu les ECA, dans le département Bassa, il faut que l'école primaire, au lycée, on soit aussi enseigné en Bassa, même si on vient d'autres régions. Et que ce soit le cas partout, j'ai discuté avec des linguistes dans mon équipe, ils m'ont dit que c'est possible. À terme, les nouvelles générations ne seront donc plus seulement francophones ou anglophones, ils seront bassaphones, bamiléképhones, étonphones. Je vous donne là quelques langues de mon pays. Et en ce moment-là, les gens se connaîtront mieux, se cohabiteront moins, mais s'intégreront davantage. Ce que je dis vaut pour le Cameroun, mais ça vaut en réalité pour une bonne partie de l'Afrique. Ou parfois, vous entrez dans une maison, un enfant de 2 ans, il vous salue en français. Et on est content, on s'est dit l'enfant est intelligent. Mais l'enfant peut apprendre cette langue à la fois. Moi, je vais vous étonner. Mon père était professeur français. Il était interdit chez nous de parler français avant d'aller à l'école. J'ai parlé mon premier mot français, je l'ai prononcé à l'école à l'âge de 5 ans.
Wow.
Ça ne m'interdit pas de m'exprimer en français et en anglais aujourd'hui. Mais il faut donc revenir à ça. Donc c'est trois, je vous ai dit, c'est trois solutions. Le dialogue, y compris même avec ceux qui sont en prison maintenant. Vous savez, la Colombie a compris que c'est en discutant avec les FARC qu'on peut retrouver la paix. La paix n'a pas de prix. Le régionalisme et puis l'enseignement des langues.
En parlant de l'enseignement, on va passer à une chanson vite fait, on va prendre un petit break là. Mais d'abord, une question en parlant d'enseignement. Des cours d'éducation sexuelle dès l'école primaire, pour ou contre, M. Cabral?
Moi, je suis pour.
Pour?
Je suis pour. Ouais. Parce que nous sommes en 2018. Et que de laisser les enfants à l'abandon, d'entrer en contact avec un certain nombre de sujets dévastateurs, comme la sexualité, par les réseaux sociaux. Je regardais encore récemment un reportage sur la pornographie en milieu jeune. Aujourd'hui, les enfants, par Internet, et à un âge que vous ne soupçonnez même pas,
ils ont tout
commencent à regarder, par exemple, des films porno, commencent à entrer dans des sites sexuels, parce que c'est un monde qu'on ne contrôle pas. Donc, contrairement à il y a 20 ans ou 30 ans en Afrique, où on pouvait attendre patiemment, parce que c'était des sujets un peu tabous, il y avait une gêne à évoquer ces questions. Quand on était plus jeune au Cameroun, il était difficile de voir une série où un homme embrassait une femme. Aujourd'hui, les hommes et les femmes s'embrassent dans les dessins animés. Alors, si un enfant peut tomber sur des clichés pornographiques, sur des films pornographiques à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans ou à 6 ans, ben c'est dès cet âge-là qu'il faut commencer à lui dire « Mais fais attention à ce que tu vois. » Parce que ce que vous tabouisez à la maison est détabouisé quand l'enfant sort de la maison. Du coup, on crée parfois un climat d'hypocrisie qui est tel que l'enfant, il a l'air enfant, mais en fait, il sait des choses que vous ignorez. Et le jour où vous découvrez les dégâts des choses que vous croyez qu'il ignorait, il est parfois tard de rattraper. Il y a les MST, tout ça. Nous, on est en Afrique, c'est très compliqué. Moi, je pense qu'il faut dépasser les pesanteurs culturelles et enseigner ces choses. Maintenant, il faut savoir quoi enseigner aux enfants. Actuellement, au Cameroun, il y a une polémique grave. Parce qu'il y a, dans un ouvrage de classe de 5e, c'est dans le secondaire, des extraits qui décrivent, mais au détail, des débats sexuels, qui donnent des noms à certaines positions.
Là, vous n'êtes pas d'accord avec
sexuel.
Ça.
Et non, parce que le danger derrière ça, c'est qu'en faisant semblant de sensibiliser les jeunes sur des sujets compliqués, on les éduque plutôt à d'autres choses. Vous savez qu'il y a d'autres dérives de toutes sortes maintenant. Des questions liées à l'homosexualité, des questions liées à la transsexualité.
Oui.
Et souvent, c'est des lobbies qui font irruption dans le domaine de l'éducation et par une sorte de sublimation, en fait, ou de méthode subliminale, on fait semblant de mettre les jeunes en garde contre l'homosexualité, alors qu'en fait, c'est là qu'on leur dit qu'il y a l'homosexualité et que sachez juste qu'il faut faire attention, l'anus a fait ci, a fait ça, je vous donne des extraits de ce qui fait rage au Cameroun. Donc, il faut éduquer. Le rôle des linguistes, le rôle des pédagogues, des éducateurs, c'est de tenir compte aussi de l'âge de l'enfant et savoir lui dire ce qui convient à son âge et non pas d'inséminer en lui des choses plutôt qui feront des dégâts qu'on ne peut plus contenir ou contrôler.
Monsieur Cabralibi, je rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle au Cameroun. Restez avec nous. Nous allons respirer avec la musique. Nous revenons dans un instant aussi pour la comédie. Écoutez, Aram Chou, une émission de Voix Afrique en direct de Washington, la grande capitale de USA. Une émission spéciale aujourd'hui, bien sûr, et vous êtes nombreux à nous capter aussi sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Je dois déjà commencer par présenter des excuses parce qu'on ne pourra pas poser toutes vos questions, messieurs Cabral, Alibi.
Alors, Roger, permets-moi juste de dire mon admiration à propos de Yemi Alade.
Pourquoi seulement Yemi Alade, monsieur Cabral Alibi?
Non, mais il y en a d'autres. Il y a elle, il y en a d'autres dans mon pays et ailleurs.
Mais cette dame, d'abord, c'est du talent.
Qu'on vient de suivre, là, d'ailleurs, là, la chanson.
C'est bien fait. Oui. Pour moi, elle fait aujourd'hui la fierté d'un continent, continent africain, par la qualité de sa production, de ses œuvres, sa tenue. Et elle est restée très africaine dans son allure, dans ses maquillages, dans ses costumes et autres.
Oui, c'est vrai.
On en est vraiment fiers. Quand c'est bien, il faut le dire.
Il faut le dire. Je suis content que vous reconnaissiez en tout cas ces artistes qui font la fierté de l'Afrique. Elle est passée dans cette émission deux fois et je dois dire que c'est vraiment une dame qui est respectable. Ouais. D'abord, elle s'est excusée parce qu'elle était venue en retard. Elle nous a appelé à partir de sa salle de concert où elle devait nous venir, mais elle a appelé pour nous excuser. Mais on sentait vraiment que c'est une dame qui se respecte. Vraiment, c'est une bonne chose. Jean-Louis Mafema, ici avec Lionel Gaïma. Vite fait, on va passer à la comédie avant de conclure avec Monsieur Cabral Libi. La comédie, c'est tout de suite. C'est une émission de VO Afrique que vous nous captez chaque jour entre 20h à 21h temps universel. La comédie, c'est aussi un segment que beaucoup d'entre vous adorent et vous me demandez toujours, Roger, est-ce que Lionel et Jean-Louis seront là? Lionel, bonsoir. Et ici, on commence avec quoi aujourd'hui, Lionel? Quelle histoire?
Bonsoir, Roger.
Bonsoir. Je sais que vous n'avez pas dit bonsoir à notre invité, Monsieur Cabral Libi.
C'est pas grave, on s'était dit bonsoir.
En tout cas, à l'antenne, dans mon émission, il faut dire encore bonsoir à Monsieur Cabral.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir à vous.
On est vraiment ravis de vous voir, de vous avoir dans nos studios ici. Je crois que vous avez des idées pour le Cameroun et pour l'Afrique qui sont d'une portée extraordinaire. Je vous encourage et puis... bon succès.
Merci
dans votre campagne.
Merci.
Donc, Roger, je sais que vous avez des chiens.
Oui.
Vous leur parlez, non?
Beaucoup.
Vous leur parlez?
Oui, en lingala, bien sûr.
En lingala? Ok. Alors, un homme, avant de voyager, dit à son petit perroquet, tranquille, écoute, si ma femme me trompe, tu t'arraches une plume. Alors, le gars, il part en voyage à son retour. Il ne voit pas le perroquet et demande à sa femme où est passé l'oiseau. Parce que c'est vraiment
son animal.
Ah oui. Et la femme lui répond calmement. Il est mort de froid parce qu'il s'arrachait 4 plumes par jour.
Bien sûr, l'homme s'est évanoui. Mais merci, va se venir. Jean-Louis m'a fait ma vie, tu n'en as pas assez. Vas-y.
Ben, c'est un certain monsieur, Le Pen, meurt et se retrouve au paradis devant Saint-Pierre.
Le Pen.
Le Pen, le français Le Pen.
Oh boy.
Tu connais. Alors il arrive et Saint-Pierre le regarde et dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Non, pas ici, toi, tu vas directement en enfer. Bon, il s'en va tranquillement. Le matin, Saint-Pierre entend un grand bruit dehors d'un bois. Il ouvre la porte et il voit tous les diables qui sont là. Il dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Il dit, non. Nous, on est venus demander l'asile ici parce que là-bas, on ne peut plus avec ce monde. On n'en peut plus.
Alors là, c'est pas gentil.
Ça, c'est vraiment pas gentil. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Monsieur Cabral Libi, c'est un honneur, comme j'ai dit au début de cette émission, un grand plaisir que vous puissiez... Je ne sais pas comment dire, mais on n'a vraiment pas assez de temps pour finir cette émission parce qu'il y a tellement de questions qui sont en train de tomber en ce moment. Si vous étiez encore ici, j'allais vous demander de revenir demain parce qu'il y a tellement de gens qui sont en train de vous poser des questions et on pourra. Et c'est la radio, on doit finir. Mais
moi, je ne pourrais plus parce que demain, je vais à Atlanta.
Mais on pourra vous avoir au téléphone peut-être un de ces quatre.
Bien sûr.
Ou sur Skype aussi.
Je pourrais participer, mais à partir du Cameroun, à partir de l'Afrique.
Ouais.
Je reste un homme de médias aussi.
Ouais.
Et puis, je reste un homme politique, quelle que soit l'issue du 7 octobre. Nous donnons tout ce que nous pouvons pour remporter l'élection. Et puis, je resterai un homme politique et si Dieu me donne vie, c'est pour longtemps encore. Moi, je vous dis merci à ces millions d'Africains à qui j'ai pu parler avec beaucoup de plaisir ce soir. J'ai découvert un beau studio fermé. On est aux États-Unis, qu'est-ce que vous voulez? Et surtout, des émissions, des caméras partout, la télé dans la radio, la radio dans la télé.
Exactement.
Et puis, vous êtes très sympathique, merci.
Merci beaucoup à vous. Et comme d'hab, je dis merci à toute l'équipe de RM Show. God bless. Peace Africa.
C'était RM Show sur VOA Afrique.